Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Banquette, c'est Limalal au micro. Je voulais vous remercier pour les nombreux messages d'encouragement, de soutien, de félicitations et toutes ces choses qui nous font vraiment chaud au cœur. Du coup, j'ai moi aussi un petit cadeau pour vous, Noël en avance, une longue, riche et hilarante conversation avec le consultant vedette en France, j'ai nommé Omar Da Fonseca. On voulait l'accueillir dans Banquette depuis un moment parce qu'il a joué à Monaco, donc mon club, et à Toulouse, le club du producteur de Banquette. Et puis, par hasard, je suis tombé sur lui lors d'un Red Star Auxerre en début de saison. Assis à côté, il a rendu cet énorme choc interplanétaire encore plus intéressant. Il a passé les 90 minutes à gesticuler, à crier, à encourager, voire même à tacler, comme s'il commentait une finale de Coupe du Monde. Il me fallait absolument rendre un hommage à cet homme. Du coup, je l'ai interviewé dans les locaux de Beansport et il a été si bon qu'on a décidé de vous garder la quasi-totalité de la conversation. Même si je sais que vous aimez ma voix suave et les inventions de notre argentin favori, on a préféré vous couper ça en deux parties d'une heure chacune. Dans cette première partie, Omar revient longuement sur son passé de joueur, de son Argentine natale à la sélection nationale avec Maradona, et il nous raconte aussi sa post-carrière et sa trajectoire d'agent, comment il a découvert par exemple ce génie de David Trezeguet ou le parisien Javier Pastore. J'en profite d'ailleurs pour remercier Blue Mike de nous fournir du matériel de qualité pour pouvoir mener à bien ces conversations. Parce que si mes questions et ma façon de mener une interview sont parfaites, bah si vous pouvez pas les entendre, ça sert strictement à rien. Donc merci à Blue Mike pour leur soutien. Ah, et avant de lancer le générique, je vais vous proposer un petit jeu. Comme à son habitude, Omar balance un bon paquet de punchlines dans cet épisode. Je vous propose donc de nous envoyer votre préféré sur notre compte Twitter, @banquette_ne, avec le hashtag Omar Punchline. C'est parti DJ Abdel.
Régalez-vous. Et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà.
Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop.
Non.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors pour aujourd'hui, attention, on vous a préparé du lourd. J'ai l'honneur d'être accompagné de l'homme qui a un prénom de Saoudien, un nom portugais et l'accent de Garcimore, à savoir Omar Da Fonseca. Omar est le consultant vedette de Beansport pour qui il couvre spécialement la Liga, mais aussi les grandes compétitions internationales comme la Ligue des Champions, la Copa América, l'Euro et la Coupe du Monde. Grâce à sa verve, son enthousiasme et son amour du jeu, il nous fait vivre les matchs comme personne. Tout le monde a en tête, hein, par exemple, le fameux « Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire et laisser la carte de visite ». D'ailleurs, on en reparlera de ça, Omar, hein, parce que j'ai 2-3 trucs à te dire là-dessus. Bon, après, en même temps, il faut dire que c'est plus facile de nous faire rêver sur un classico Barça-Real que sur un galette saucico Rennes-Guingamp. Hein. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ce que les plus jeunes ne savent pas, c'est qu'Omar n'est pas qu'une fabrique de punchline, hein, c'était plutôt aussi un joueur de foot professionnel dans les années 80-90, qui a passé la grande majorité de sa carrière en France, en jouant notamment à Tours, au Paris Saint-Germain, Monaco et Toulouse. Il a même eu la chance d'être appelé avec l'Argentine. Alors ok, c'était que 2 fois, mais c'est quand même toujours plus que Franck Jurietti, donc c'est déjà pas mal. Complètement dingue de foot, l'ancien attaquant est devenu agent de joueur à la fin de sa carrière et a permis à de nombreux Sud-Américains de rejoindre l'Europe. Si vous êtes fan de Pastore, par exemple, bah vous pouvez remercier Omar, hein, parce que sans lui, il serait encore en train de mettre des petits ponts à Buenos Aires, le Javier. En bref, on va passer un petit moment avec un homme qui vit foot, qui gère le fan club officiel de Lionel Messi et qui nous régale avec ses expressions. Bonjour Omar.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que tu penses de la présentation? Il y a des choses qui vont pas, qui vont? Ça te va?
Tout va, parce que d'abord, il y a tellement de réalités, en passant par l'accent, par mon prénom, par le lieu de naissance, et ensuite, à part souvent le côté imagé de mes propos, et tout ça, c'est bien réel, donc on ne peut pas se cacher derrière.
Parfait, alors c'était gentil, par contre, je préviens, ça ne sera pas toujours gentil, ça c'est pour te mettre en confiance un petit peu. Hein. On va commencer avec la base, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir foot, vraiment, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport?
J'habitais dans un quartier en Argentine très proche de le stade de Vélez Sarsfield. Et surtout, mon grand-père, en Argentine, on appartient tout de suite à un club. Dès que tu es né, on est socios, on est abonné. Moi, j'ai encore mon carnet, qu'on appelle, où j'ai 8 mois, et j'ai la tête. Et on dit tout le temps, on continue à le dire, et ça existe. Et même si des fois, c'est assez irréel de dire que dans une vie, on change de voiture, de maison, de femme, de guitare, de cheval, on dit tout ça en Argentine, mais c'est un sacrilège, ou je sais pas, c'est un vrai désastre si jamais on change de club, parce que dès que vous êtes né, soit par le quartier, soit parce que vos oncles, vos parents, peut-être moins vos amis, etc., vous avez cette appartenance. Et donc, j'allais tout le temps voir Carlos Bianchi, Bianchi Benito Bentron. Il y avait une tous avec B, les attaquants. Et j'allais tout le temps, je me mettais dans un escalier. Et après, ils sortaient, ils montaient dans le bus avec des survêtes gris, tout pourri à l'époque. Et bon, et j'étais dans cette image. Et j'ai toujours, je pense, désiré bien déterminé à vouloir un jour être de ceux qui, à ce moment-là, ils montaient dans le bus, parce qu'ils montaient dans le bus pour aller partir au vert avant les matchs, etc.
Donc, on va dire, maintenant, on l'a bien compris, t'es fan absolu de Messi, mais à l'époque, c'était plus Bianchi, ton idole, celui à qui tu voulais ressembler.
Oui, oui, bah, disons que c'était un trio, et parmi les trois, il y avait un qui était hyper technique, je préférais celui-là, parce que c'était celui qui mettait un peu de fleurs dans la maison. Les autres, ils étaient un peu plus dans le côté concret de l'action, et l'autre, il mettait un peu de fantaisie, et ça me plaisait déjà à l'époque.
Et quand tu les regardais, tu pensais déjà être joueur de foot ou c'est venu après ?
J'étais dans le désir. J'ai voulu toujours. Hein. Je crois que mon grand-père, il m'amenait tout le temps. Mon père, très peu. Mon père, il travaillait, etc. Mais mon grand-père, il a toujours, je crois, lui, il m'a dit, je vais t'inscrire dans les équipes. Donc j'étais plus ou moins aiguillé ou appuyé, je ne sais pas, avec un soutien important. Et ensuite, je crois que oui, c'est d'abord j'étais attiré, ensuite ça me plaisait, et puis j'étais assez bon parce qu'on était dans l'école, donc on faisait les tournois et on arrivait assez loin, et j'avais été plus ou moins contacté. Donc après, il y a plein de choses qui s'enchaînent et qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut le faire parce que tous les critères, tous les feux étaient bien verts.
Et c'était bien pour les filles, ça, d'être bon au foot à l'école ?
Non, non, parce qu'à l'époque, ceux qui faisaient du sport, on disait qu'on était déjà assez, pas très intelligent, assez brut. On envoyait le ballon, il n'y avait rien d'autre, on n'allait jamais nulle part, ni au cinéma, ni on ouvrait les livres, ce qui était certainement très réel. Et néanmoins, il y avait aussi le côté discipline. Déjà, à mon époque, moi, j'étais dans un club où ils nous disaient il ne fallait pas sortir. Moi, je ne sortais jamais les samedis soirs parce qu'on jouait le dimanche. Donc, le samedi soir, pendant je ne sais pas combien d'années, je n'ai jamais connu la fièvre du samedi soir parce que j'ai voulu. Donc, je mangeais les pâtes sans sel. Il y avait tout. Oui, oui, c'était l'époque où il fallait manger des avocats. On mangeait des avocats, des tonnes, alors que maintenant, c'est interdit. La tendance, la mode était complètement différente. Et j'ai essayé parce que, encore, je courais. Je me souviens qu'on disait qu'il fallait avoir du foncier. Et je partais de chez moi, je faisais une heure et demie, je courais d'un seul coup. Et après, je revenais dans le même sens, sans aucune mesure de rien. Mais et c'était un peu, voilà, le côté passionnel qui dépassait parce qu'on n'avait pas le cadre qui existe maintenant dans beaucoup de domaines.
Mais tu disais que tu étais bon. Tu penses que tu es né avec un don pour jouer au football ou c'est quelque chose qu'on travaille ou qu'on peut travailler? Par exemple, quelqu'un qui, de base, techniquement, est nul, en travaillant vraiment beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il peut devenir bon?
Non, non. Encore une fois, le bagage, je dis ça, c'est le contact balle. Pour voir que la balle se sente à l'aise, que la balle veuille venir dans tes pieds, proche de ton corps, c'est quelque chose qui est naturel et que... Qu'ensuite, à travers justement, comme toute méthodologie, le fait de savoir qu'à un moment donné, en mettant le corps d'une manière ou en frappant dans un endroit spécifique de la balle, les choses y sortent, etc. Et ça, c'est vrai. Mais la qualité naturelle, encore une fois, des prises des balles, de cet aspect d'amitié qui se lie entre le ballon et l'être humain, appartient pour moi à une dimension inconnue.
Donc ça veut dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tous les mecs qui jouent en Ligue 1, forcément, c'est les plus forts techniquement de tous, quoi. C'est triste. C'est très, très triste.
Non, mais ça aussi, c'est un paradoxe parce que je le dis tout le temps. Moi, je n'ai connu, je côtoyais des très jeunes joueurs. Quand je faisais les divisions inférieures, on appelait ça en Argentine, des joueurs, il y en avait en tout cas 3-4 que je les côtoie encore. Il y en a un qui est coiffeur, l'autre, ils vont, je sais pas, à des fruits. Mais ils étaient 1000 fois plus forts que moi. Mais vraiment, même à notre époque, tout le monde était émerveillé par ces mecs-là. Et ils n'ont pas fait carrière. Il y en a un qui a fait très peu. Donc, c'est là où, après, la complexité de les sportifs dans un sport collectif, dans un sport où il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a le club, l'entraîneur, la forme, les blessures, ta morale, ta condition physique, je ne sais plus, ton appui des parents, etc. Qui fait que. Que c'est pas parce que tu arrives, et ça existe maintenant, hein, c'est pas parce que tu arrives à être un joueur professionnel, même de haut, de très très haut niveau, que forcément ce qu'on appelle la qualité intrinsèque d'un footballeur, qui n'est pas tout à fait mesurable dans un registre bien, bien défini. Mais je crois que ce n'est pas strictement lié. Hein. Je connais des mecs qui savaient vraiment jouer au football et qui maintenant, voilà, ils sont coiffeurs ou ils vendent des fruits.
C'est la fameuse « Ah, je me suis cassé le genou, j'étais sélectionné partout et le genou a lâché, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait carrière. »
C'est très
fameuse,
typique.
On en connaît tous des comme ça. Et justement, tu me disais que il y avait tout qui se mettait en relation avec toi, l'entraîneur, le club, le soutien de la famille, le fait de jouer au foot depuis longtemps. À quel moment tu as eu le déclic de te dire « Voilà, ça y est, je peux être vraiment professionnel ou je suis professionnel ?»
Pas évident, parce qu'en Argentine, la masse de prétendants à vouloir aspirer à déjà être pro ou à pouvoir jouer dans les équipes ou en première division, je le continue à le dire, c'est encore plus important qu'en Europe. En Amérique du Sud et en Argentine, à mon époque, il faut se dire que ça fait 40 ans en arrière, le tennis, on le voyait même pas, le basket, c'était un sport mineur, le rugby, avec quelques éléments qui physiquement constitués pouvaient le faire. Chez nous, c'est que le ballon. Et puis, en plus, en Amérique du Sud, il faut savoir que le football, c'est un moyen à niveau télévisuel, à niveau médiatique, à niveau, encore une fois, environnement très important. On vous fait croire à tout moment qu'être footballeur, non simplement vous allez être sauvé, parce que c'est vraiment dans cet aspect-là qu'il faut le sentir, mais que vous allez devenir quelqu'un de différent, d'extraordinaire par moment. Ils vont vous donner la parole et vous allez pouvoir être un exemple, ce qui fait que j'ai été dans un club, un très bon club, mais à un moment donné, j'ai senti que peut-être ils allaient pas me garder. Ils m'ont gardé de justesse, j'ai été prêté dans un autre petit club, je suis revenu. Donc disons que j'ai toujours été avec cette histoire de dire allez, je voudrais, je peux, mais j'ai eu aussi des périodes où, même quand j'avais 18-19 ans, à un moment donné, je me suis dit je crois que ils vont me virer et je vais être mis à l'écart, comme j'en ai vécu et j'en ai connu un paquet. Donc oui, après j'ai eu, c'est vrai, un entraîneur, après j'ai eu quelqu'un qui m'a rappelé alors qu'il me connaissait en étant jeune. Donc ensuite il y a des éléments, des choses qui arrivent par encore une fois, pas tout n'est pas explicable, et qui font que voilà, tu rentres, tu joues un match, j'ai marqué un but, après l'entraîneur il m'aimait beaucoup, il m'a amené en stage d'avant-saison, bon, la route a plutôt bien débuté.
Mais au moment où tu disais que c'était difficile pour toi, que tu avais été prêté, que tu pensais que tu allais être mis à l'écart, est-ce que tu te disais, bon merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, qu'est-ce que je vais faire comme travail, ou vraiment tu étais focalisé juste sur joueur de foot, sans penser à ce que tu pouvais faire?
Non, j'ai toujours pensé, j'étais un peu là. Parce que moi je viens d'une famille, mon père il était ingénieur, il était parti aux États-Unis, mon père c'était un aventurier qui n'existait pas, parce que dans les époques déjà 60, il est parti aux États-Unis travailler. Donc, et ensuite, j'ai un frère, et mon frère était la grosse tête. Lui, il faisait des études, etc. Et mon père, il voulait que j'y fasse aussi. Donc, j'ai fait des études commerciales, j'ai eu mon bac, j'ai fait 3 ans d'université à niveau, une espèce d'école de commerce qu'on appelle maintenant. Et donc, même quand j'avais 18-19 ans, c'était cette période, je me suis dit, bon, ok, si jamais je ferais autre chose, mais je me le disais en essayant de ne pas m'écouter, ou en tout cas, surtout, parce que j'ai galéré. À un moment donné, on allait faire des essais. Je prenais avec 2-3 amis que je côtoie encore, on prenait des bus, on allait à Rosario, machin, il y avait dans d'autres clubs, on prenait un bus, on dormait par terre parce qu'il y en était 300 mecs à vouloir. On faisait des essais 3 jours, comme des ratés, on courait, on faisait des matchs, et après, à la fin de 3 jours, ils disaient Paul, Pierre, Jacques, reste, alors, et nous, on rentrait dans le bus. Donc j'ai vécu que maintenant, ils nous font tellement rire. derrière et qui nous nourrissent à travers ça. Mais je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais dans le doute et je me posais des questions, absolument.
Bah après, ça s'est bien goupillé puisque tu fais 3 saisons en Argentine, à Belgrano puis Vélez. Et tu débarques en France, à Tours, en 1982. Alors, quand tu viens à Tours, c'est quoi l'idée? Tu veux être le nouveau Delio Onis, qui, pour petit rappel, pour les jeunes, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la division avec 299 buts, dont 164 avec le meilleur club du monde, Monaco, en 200 matchs.
D'abord, je suis venu à Nice. J'ai signé à Nice, etc. Et j'ai passé 3 mois où j'ai connu surtout un Daniel Bravo, qu'on l'appelait à l'époque les 200 de formation, on l'appelait le Petit Prince. Et donc, il y a après une histoire, pendant 3 mois, il y a une histoire avec les clubs d'Argentine, etc. Et un jour, je reçois un coup de fil de Lyonis, il m'a dit, est-ce que tu veux venir à Tours? Et moi, j'étais à Nice, mais je lui ai dit, écoute, moi, je suis là, non, mais tu verras, il y a une histoire. Et donc, c'est lui qui m'a dit, viens à Tours. Il m'a dit, mais le climat, il m'avait parlé, mais attention, parce que mais moi, ça, nous, quand tu quittes l'Argentine, etc., le regard du climat, c'est un détail complètement amoindri. Moi, je m'en fichais, hein, que ce soit... Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Tours et non, Delio il était déjà, donc il a 10 ans exactement de plus que moi, lui il était une gloire, donc il m'a dit on va essayer de jouer, etc. Et j'ai connu et j'ai vécu 3 ans magnifiques dans cette superbe ville que j'y retourne très souvent parce que l'histoire de ma vie c'est que ma fille elle a connu un Tourangeau encore et maintenant elle habite à Tours, donc je reviens encore à Tours 30 ans en arrière pour voir mes petites filles qui sont des Tourangelles.
Et en plus, Delio Onis, tu le copies quand même jusqu'au bout, puisque tu fais un petit passage au Paris Saint-Germain, où d'ailleurs tu gagnes un titre, le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et après, bah donc, tu vas à Monaco. Pareil, c'est lui qui t'a appelé et qui t'a demandé de venir le rejoindre en fin de carrière?
Non. Après, c'était... À partir du moment où j'ai commencé à jouer à Tours, j'ai eu une très bonne saison. Je crois que la deuxième, où j'ai marqué pas mal de buts. Et la troisième, j'avais été pas mal. Donc, j'ai eu... pas mal de sollicitations, j'ai eu des grands clubs, mais et en étant argentin, encore une fois, et en ayant des principes un peu d'existence, j'ai toujours voulu jouer à Paris. Je me suis dit, il faut que je vienne jouer à Paris. Donc quand Paris m'a contacté, j'avais d'autres possibilités. À l'époque, j'avais des petits clubs en Espagne, mais surtout ici en France. Mais bon, j'étais tellement focalisé pour venir à Paris que dès que Monsieur Borrelli, à l'époque, le président... était venu me voir et il m'avait contacté. J'avais fermé tout rideau possible et je dis je veux jouer à moins un certain temps à Paris.
Mais pourquoi t'es parti aussi vite de Paris alors, juste après avoir été champion en plus?
Parce que d'abord j'ai eu une blessure, monsieur Landucci, le défenseur en Corse, il m'avait cassé la clavicule.
C'est bizarre ça pour un Corse, ils font pas ça souvent en général.
Et à l'époque, encore une fois, le côté médical, donc j'ai une brochure, une histoire 3 mois, le plâtre, cette histoire, donc j'ai eu du mal à revenir. Et ensuite, je suis revenu, mais l'équipe avait gagné, j'étais remplaçant, et à la fin, et en étant champion, et ils allaient jouer, donc, c'était pas la Champions League, mais la Ligue des Champions, et ils disaient qu'ils allaient faire venir encore beaucoup de joueurs, ce qui a été le cas, parce qu'après, ils ont fait venir Bocandé, Alilozic, je sais plus qui, il y avait Rocheteau, mais ils ont... Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient... Et Monaco, il s'est présenté, et puis voilà, il s'est aussi un peu les côtés priorités. J'ai voulu, parce que par moment, toi, on est un petit peu dans les... rêve de dire Paris et Monaco, c'est deux choses qu'il faut pouvoir côtoyer de l'intérieur. Donc encore une fois, dès que j'ai
surtout Monaco.
Si, non mais oui,
non, en plus à l'époque, c'est un des peut-être même le meilleur club français à ce moment-là.
Oui, oui.
Un peu avant le grand Marseille, puisque justement, c'est un exploit d'être champion avec Paris à l'époque, puisque ça n'a jamais été le cas. Le club existait depuis 15 ans, alors que Monaco, c'était vraiment voilà le club phare des années 80 avec des championnats, des coupes de France,
oui,
etc.
Oui. Il y a en plus une espèce de modèle, de marque du jeu. On disait tout le temps à l'époque, bon, il y avait Bijota, Bellone, Emmanuel Amoros. Des grands Marcel Dib, etc. Ça jouait en football, on disait tout le temps, à l'époque de Nantes aussi, etc. Mais il y a une force qui s'est créée, qui te développe une envie de vouloir côtoyer ça, en dehors de l'aspect peut-être même financier, ou l'aspect du foot, ou l'aspect. Tu te dis, masse, et c'est ce que je me dis maintenant que je vais avoir bientôt 60 ans et je suis beaucoup plus proche de la fin que dès le début. Heureusement que j'ai vécu ça.
Ça va, t'as encore des trucs. Mais un autre truc que t'as vécu, qui j'imagine est fort, c'est, je le disais dans l'introduction, tu as été international le 10 octobre 86 contre le Nigeria. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, d'intégrer une équipe qui vient d'être championne du monde avec Maradona. Qu'est-ce qu'on se dit ?
Non, mais déjà, on s'entraînait. Moi, je suis de l'époque de Ramon Diaz, Maradona, Calderón, Juan Simón, Barbas, bon, des mecs qui ont joué ensuite. Et moi, je dis tout le temps, Maradona, à l'époque, c'était déjà un monstre. Il avait, je sais pas, 17 ans. Le mec, il avait 5-6 Ferrari de toutes les couleurs différentes. Parce qu'il avait fait une grosse publicité d'une soda très importante américaine. À l'époque, on lui avait donné 20 millions de dollars en 1977. Et je me souviens que lui, il arrivait à l'entraînement. Un jour, il arrivait avec cette grosse machine. Et il s'en fichait d'aller dans les routes. Il les faisait monter dans le jardin. Il avait des trucs. Il rentrait. Un jour, il venait avec la rouge. Un jour, il venait à la. Et nous, on était comme des. Donc. Et je sais pas, à l'époque, si, maintenant que je reviens, je garde okay, plein de choses. Quand je le vois, on se côtoie un peu et on rigole, même si encore une fois, lui, il a eu 155 vies par rapport à la nôtre. Et encore une fois, je regarde cet aspect de dire quelle insouciance, quelle liberté de tout. À ce moment-là, il y avait encore une fois que le ballon qui nous faisait donner une excitation. On était dans l'extase totale à travers de cette sphère. Et on essayait de, quand on disait, on va jouer, je sais pas où, on allait en Colombie, on était comme des malades. Tu vois, la veille, on dormait pas parce qu'on allait prendre un avion, on allait à l'aéroport. On ne peut pas imaginer la différence dans cet aspect d'échange, des voyages, d'organisation qu'il y a par rapport à maintenant. C'est là ce qui est beaucoup plus dur à pouvoir imaginer. Moi, j'ai plein d'anecdotes où je savais que je partais, mais la veille, on avait la marque des chaussures, et on lui mettait les trucs blancs. Le soir, on faisait de la peinture. C'est nous qui faisons tout ça. Moi, je la mettais sur ma petite table de chevet. Le noir, tu vois, les lacets. Ma mère, il venait, il lui disait même, il lui faisait un bisou pour dire au revoir presque. Tu comprends? On était tous dans une espèce de. Mais oui! Parce que c'était un moment, je les mettais dans le sac, j'ai plus, non, mais la serviette, il y avait. À l'époque, on s'est bandé les pieds. On n'avait pas les straps pour les entorses des chevilles. Moi, j'en ai eu souvent. Il y en avait une espèce de truc en tissu, tu vois, qu'on lavait. Et ma mère, elle me le repassait, tu vois, pour les enrouler. Tu vois, des trucs où tu te dis, c'est la préhistoire.
Mais tu étais plus excité qu'impressionné, alors, du coup. Parce que moi, je me dis, je sais pas, demain, je suis joueur de foot. La France est championne du monde. Je débarque en novembre 98 avec l'équipe de France. Je vais être impressionné parce que je vais me dire c'est des monstres en face. Toi, t'es venu que excité en fait, content d'être là et c'est tout.
Oui, parce que je côtoyais quelques-uns, Barbas, Simon, etc. Je les avais côtoyés aussi avec les jeunes. Et il faut se dire qu'à Buenos Aires, on habite tous, la plupart d'équipes sont à Buenos Aires. À l'époque, il y avait 14, bon, comme maintenant, il y a 14, 15 équipes en première division. Donc il y en avait quelques-uns, on se connaissait déjà. En même temps, on n'a même pas le recul de pouvoir être apaisé parce que on s'aimait dans ce tourbillon de voilà la pression, il faut gagner, il faut jouer, toi, il faut encore une fois manger des pâtes sans sel, toi, on revient dans un truc où tu es quand même tu flottes parce que tu vis quelque chose, parce que tu l'as jamais fait, et en même temps tu veux être bon, tu sais pas si tu es valable, ça rentre aussi cette condition dans le sport de connaître, de savoir si tu vas être à la hauteur. Et ça donne un peu de à l'estomac, ça te gratte un peu. Donc des fois t'es pas que euphorique ou que excité.
Après, en vrai, on peut se le dire maintenant, le coup des deux sélections là en Argentine, c'est juste pour pas faire de l'ombre à Maradona. Il y a un complot, il y a un truc.
Non, mais ça va plus loin parce que. Quand j'ai joué en Argentine, lui jouait Argentino Juniors et moi à Vélez Sarsfield. Et je l'ai déjà dit ici à Bihin, j'amenais les journaux. J'ai encore les journaux qui prouvent que chaque fois que je jouais contre Diego Maradona, j'ai toujours été mieux noté que lui. J'ai joué avec trois fois. Donc, comme lui, il est le meilleur joueur du monde, par ricochet, chaque fois que je jouais contre lui, j'étais meilleur. Voilà. Qui c'est le meilleur du monde? Il y a pas
Donc, c'est ce que je dis, un complot. Voilà, bravo. Et après, alors on va arriver à la fin de ta carrière, parce qu'après, on va parler un petit peu de ton passé d'agent recruteur. Quand tu arrêtes ta carrière, Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu as eu le fameux sentiment de « Ah, c'est une première mort, oui. Je sais plus quoi faire ». Oui, l'as eu ça?
Oui.
Comment ça se passe?
Mal. Mal, parce que tout ce qui... Tout ce qu'on disait tout à l'heure, on a employé des mots, être excité, avoir l'adrénaline, vivre dans l'extase, vivre à flotter, on s'aperçoit que le matin on se lève et il n'y en a plus, ni l'entraînement, ni le maillot qui va couvrir ton corps, ni ce ballon merdique que des fois tu dis merde, il roule, etc. Il est là, il nous rigole jamais, il ne transpire, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Donc il y a des choses qui sont quelque part et on est dans une incertitude totale parce que bien sûr on ne veut pas, c'est une réalité, parce que ça y est, soit on joue plus, moi je jouais plus, j'étais vieux, j'ai arrêté, j'avais 33, 35 ans. On se pose quelques questions aussi, est-ce que je suis encore dans des petits clubs, donc on a ce petit dilemme. Mais moi j'ai vécu mal. Je crois aussi que dans, à l'intérieur de ma famille, souvent c'est vrai, quand on dit les proches, c'est vrai. Moi, j'ai eu des différends énormes, je crois, avec mon ex, etc. Parce que c'est aussi une manque de se sentir bien avec soi-même. Donc, après, ça explose parce que forcément, dans une vie, plus on vieillit, on fait un peu le tour des choses. Et je crois qu'arrêter de jouer au football, même si vous vous appelez... En laissant à part l'aspect purement économique, parce qu'il y en a qui disent ouais, il est sauvé, ça y est, c'est pas grave. Oh, mais non, parce que l'utilité du corps et du cerveau font que l'intérieur puisse, encore une fois, être, je disais, apaisé. Et ça, c'est la priorité dans un être humain.
Mais ça a duré combien de temps cet état d'être mal, d'avoir quelque chose, un sentiment de manque, etc.?
Ouf, je pense que pas mal, et un an ou même plus. Oui, parce que après, toi, j'ai arrêté. Ensuite, je dis allez, je vais jouer un peu. J'ai joué à Montesson en 78. Il y avait un président un peu fou. Il me payait un peu. Mais il vient jouer. Je sais plus quoi. Je me souviens même plus en quelle division jouer. Parce que tu veux pas décrocher. Donc quelque part, tu dis allez, je viens deux fois par semaine. Tu restes dans le lien. Je est-ce que je vais ailleurs? Je vais n'est-ce pas? Je vais je sais pas où. Donc, s'il y a un processus, bon, moi, je ne peux pas le définir exactement, mais ça a duré quand même plus d'un an facilement.
C'est pour ça qu'après, tu as voulu rester dans le foot, puisque en gros, tu finis ta carrière, une carrière bien remplie, tu fais 171 matchs de première division, 32 deuxième division, où d'ailleurs, tu es meilleur buteur avec Tours quand même, ce qui est pas mal. Et donc, tu arrêtes ta carrière en 93 au Paris FC, donc à l'époque, un petit club. Et directement, t'enchaînes en créant Image Sport Conseil Développement, donc on va dire ton agence de joueurs. Ça, tu l'avais pensé avant, pendant ta carrière, ou au moment où vraiment t'étais pas bien pendant un an?
Ça a été encore une fois un concours des circonstances, parce qu'à un moment donné, donc quand j'ai arrêté, etc., bon, j'avais fait quelques études, je me suis dit, je vais essayer de m'occuper, mais à cette époque-là, j'avais un peu... des idées trop importantes, donc je me suis dit, j'ai eu la prétention, là je pense que je me la suis raconté à l'inverse, de dire je peux m'occuper du mec, de dire à niveau fiscal, à niveau avocat, à niveau investissement, j'ai essayé de faire un truc, toi je dis si vous avez, oui, si le mec un jour a besoin d'un taxi, je vais lui donner, toi j'étais ouais, je sais pas pour quelle raison, poussé par quelqu'un que j'ai rencontré, mais allez on va faire papa, donc je me suis mis dans cet élan. Mais je n'avais pas du tout imaginé de faire ça. C'est un concours de circonstances. Et ensuite, après, j'ai eu quelques entraîneurs que, bon, comme tout le monde arrête, on arrête plus ou moins à la même période, des entraîneurs que j'ai connus en Argentine, que j'avais vécu, et c'est comme ça. Donc la première fois, c'est David Trezeguet. Moi, la première bonne, bien sûr.
Le meilleur joueur de tous les temps.
Oui, mais vous encore une fois, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui a 17 ans, mon ami qui avait joué avec moi, il m'a dit viens le voir, je sais pas quoi, papa, et je suis allé le voir. Et la première fois que je l'ai vu, il faisait 55 degrés, le terrain, c'était presque du ciment, il y avait une panne à Platense, une équipe catastrophique, et il avait le genou qui frottait, toi, tout maigre comme ça, et le mec, il courait pas, encore moins de... Mais poum, une volée, il a marqué, après je sais pas qui lui a donné, bing, il a touché trois fois la balle, deux buts, je suis allé revu à l'entraînement deux fois, il comprenait rien, bing, il a metté au fond. Donc je me suis dit, masse, ce mec-là... J'étais boire avec lui un café, j'ai dit bon allez, j'ai rencontré son père Et voilà, c'est, ça a été lui, disons, celui qui m'a dit pourquoi pas la suite, parce que je connais quand même beaucoup de gens en Amérique du Sud, je peux venir, je sais où sont les équipes, etc. Et ça a été le cas, parce que on parle de dire, mais je fais venir Camoranes, je fais venir Velo, je fais venir beaucoup de joueurs qui n'ont pas été bons, hein. Parce que moi, des fois, je parle toujours des meilleurs, et ça, c'est normal. Il faut qu'on vende un peu de la fumée.
J'ai fait la liste, t'inquiète pas, il y a deux, trois bons joueurs dans le lot. C'est vrai qu'il y en a deux, trois, c'est pas terrible, mais il y en a des bons. Mais déjà, rien que pour Trezeguet, parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte, si la France gagne la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, c'est grâce à toi, en vrai. Bah si.
Oui.
Non, mais non. C'est quand même pour quelque chose, parce que sinon, jamais de la vie, Trezeguet vient, et on se retrouve avec Stéphane Guivarch à l'Euro 2000. Donc non.
Bon, après, il y a toujours une chaîne, hein. On dit tout le temps, il y a une chaîne d'élaboration, parce que, voilà, et c'est ce que je dis tout le temps. Comment, des fois, il y a des futurs, des choses qui se passent, parce que moi, et au départ, je le fais venir à Paris Saint-Germain. Et c'est à Paris Saint-Germain qu'il est venu, etc. Et encore une fois, avec Alain Roche, Vincent Guérin, etc. Et je les appelais, je dis, alors, le petit, comment ça va? Parce qu'ils sont partis 3 semaines. Mais dis, écoute, tu comprends pas, on les joue, on comprend pas ce qu'il dit. Des fois, il faut 2-3 touches, mais lui, il la met dedans. Il dit, ils font des jeux, la seule chose qui l'intéresse, c'est marquer des buts. Et il a été, après, comme il courait pas, bon, bon je sais pas pour quel motif. Et il a été donc dégagé et après avec Tigana et un ami il est parti à Monaco. Mais moi ce que je dis tout le temps c'est que peut-être que si Trezeguet aurait été à Guingamp, à je sais plus à Nantes, une équipe moins dominateur, moins parce qu'en plus quand il va en CFA. Et quand Van s'est fait à Monaco, il y avait un joueur qui s'appelait Dado Prezzo, qui c'était un mec à un top niveau, avec Thierry Henry. Trezeguet faisait que des coups de golfeur. Moi, j'ai dû le voir en s'est fait, le mec, bing, les autres, il faisait la soupe, toutes les sauces possibles, et lui, bing, il faisait bouger le filet, mais pas beaucoup de. Et ça, c'est quand on disait tout à l'heure, il y a des éléments qui sont ouverts ou qui sont pertinents ou propices, je sais pas, pour la réussite ou pour la non. Pour les échecs, des fois il y a des choses que tu te dis mince.
Trezeguet concrètement il joue à Monaco juste parce que l'année d'avant ils achètent Robert Tchepéard qui était meilleur buteur de Belgique à 40 millions de francs à l'époque, qui au final est nul, il marque jamais. Et il y avait Sonny Anderson mais qui après était parti, et donc Tigana se retrouve avec pas d'attaquant. Il dit bon, on va tenter le jeune, en plus à l'époque il avait les cheveux n'importe comment, il dit on va tenter. Puis il voit que ça marche, ok, et un an après, il est en équipe de France, Coupe du Monde.
Et après, il y a encore l'anecdote, parce que c'est raconté par Gérard Houllier et Luis Fernandez. Parce que quand il va en équipe nationale, des Français, les jeunes qui ont gagné.
Ils ont fait le bataillon de Joinville, ils sont champions du monde.
Je sais pas où, bon voilà. Et Gérard Houllier, un jour, il raconte Luis Fernandez, et je suis en manque dans cette équipe, j'ai Thierry, j'ai Anelka, mais j'aimerais bien. Et donc, Luis Fernandez, il lui dit, écoute, à Paris, un mec qui est français, parce que l'histoire, c'est qu'au début, ça aussi, il faut savoir que lui, il est français,
il est
pour ça
qu'il
il vient avec beaucoup plus, parce qu'à l'époque, il y avait l'histoire des coupes, il n'y avait que 3 étrangers, donc il fallait se lever tôt pour pouvoir, c'était pas comme maintenant, le Bosman et tout ça. Et donc, ce lien-là, que Houllier, il le raconte, Luis Fernandez, il lui dit qu'il y a eu un joueur qui est passé, mais il marquait des buts, poum. Il a dit, tiens, poum. Et ils l'ont appelé. Donc, il y a des choses qui sont, encore une fois, mais ça n'empêche que David, que je côtoie encore, et on a été encore en Argentine en voyage diplomatique, etc. Et c'est un mec qui est un pur produit de ce qu'on appelle la spécificité d'un buteur. C'est le mec qui sait tout faire pour pouvoir faire bouger le filet, hein, je veux dire.
Mais il y a des matchs où il touchait pas la balle. Je me rappelle d'un match, un Red Monaco. Il touche 4 fois le ballon, dont 2 fois 2 engagements à la mi-temps et sur un but, il met 2 buts.
Non. Brillant, parce que je trouve que pour faire ça, il faut justement avoir une espèce d'insouciance. Parce que dans un match de foot, plus tu touches la balle, normalement, encore une fois, dans l'aspect purement psychologique, dans tous les sports, plus tu es dans l'autoestime à travers le fait de toucher dans une pièce de théâtre, si tu joues, etc. C'est ce qu'on disait, tu crées un peu cette euphorie, cette adrénaline. Mais lui, il n'a pas besoin. Donc, c'est être brillant de pouvoir négliger cet aspect-là pour être ici aussi productif, parce que c'était une vraie machine à démarquer des buts. Hein.
Donc, tu disais tout à l'heure, tu as ramené, pour faire pas une liste exhaustive, mais donc tu as ramené Trezeguet, Lucas Bernardi, tu le ramènes, Mauro Camoranesi, Javier Pastore, Lucho González, bon, tu ramènes José Luis Chilavert aussi, on va en parler.
Absolument.
Comment ça se passe exactement? Parce que là, tu nous racontes pour Trezeguet qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit tiens, il y a un petit jeune, viens voir, etc. Comment on monte un réseau quand on démarre une agence de recrutement ou d'agent?
Oh, il y a plein d'anecdotes, ça, on va, parce que mettons, il y a quand Lucas Bernardi, il vient à Marseille. Le directeur, c'est Jean-Christophe Canon. Il m'a dit, on a besoin d'un milieu défensif, un mec costaud, etc. Un mec qui soit à présence athlétique, etc. Donc, je lui dis, il y a un joueur qui s'appelle Rosales, qui jouait à Chacarita. Je lui envoie des vidéos. À l'époque, c'était les cassettes, les vidéos de VHS, machin. Donc, je lui envoie. Donc, et on y va pour lui. On est parti à faire la négociation, etc., pour aller faire venir ce joueur-là. Sauf que, bon, en Argentine, les négociations avec les Argentins, c'est pas toujours évident. Donc, ça traîne, il y a quelques obstacles. Et entre-temps, on va aller voir un match, Newell's Old Boys, etc., où il y a un petit joueur très technique, au milieu qui court, et que... après, on va le côtoyer parce qu'il y a Maxi Rodriguez, un joueur que je connaissais déjà, donc il me l'a présenté. On a été manger avec lui et qu'à la fin, du repas, lui, il avait une Fiat Panda sans démarreur, donc il fallait la pousser. Il fallait la pousser pour donc, mais allez, il pousse le truc, donc on l'a poussé sa petite Panda à l'époque des années, je sais plus. Et bon, ouais, ça nous avait touché. Donc après, il m'a dit, est-ce que tu crois que lui... Écoute, en Argentine, tout le monde est partant. Donc, bon, pour vous dire que le réseau, ça se développe à travers, encore une fois. Et bon, moi, j'avais existé plus ou moins en Argentine. J'ai quand même vécu quelques temps comme joueur. En France, il y a eu toujours, à mon époque, on était dans tous les clubs, mais dans tous les clubs, il y avait minimum un ou deux Argentins. Simon, Sapia, Alberto, Barrera, El Potro Domingue, De Leonis, Burruchaga. On en avait un paquet d'Argentins. À Metz, à Nancy, dans tous les clubs, il y avait un ou deux. Marsico, le produit argentin dans le football, ça a toujours bien exporté en Europe, mais en France aussi.
Là, par exemple, tu disais que c'est souvent des coups de fil ou parce que voilà, t'as existé dans le foot, on t'appelait. Mais est-ce que toi, de toi-même, t'allais voir des matchs de jeunes, par exemple, pour dire, voilà, celui-là, il est pas mal, je vais essayer de l'approcher, de le ramener dans mon écurie?
Bien sûr. Ah oui, oui, je continue à le faire.
Mais ça, comment ça se passe, en fait? On va voir un match avec un carnet, on prend des notes, on se dit, on le voit une ou deux fois, on dit, il est bon, on va voir les parents directement?
Disons que pas aussi avant d'aller voir le match, moi je continue à voir et à l'époque encore plus, beaucoup d'entraîneurs, d'adjoints, des mecs qui travaillent dans les clubs, soit je les ai déjà côtoyés, je les connais par intermédiaire, soit ils ont déjà joué, on est tous à peu près de la même génération, ce qui fait que tout le monde te dit, écoute, il y a le petit numéro 10, ou il y a un arrière-gauche là-bas, donc tu prends des notes, tu continues. Maintenant c'est beaucoup plus facile, parce que maintenant tu es chez toi avec... un jus des fruits et tu rappelles mieux temps et tu vois le mec à l'époque, envoie-moi le cassé, non, oui, attends, c'est perdu, la poste, j'ai plus, c'était un autre, la croix. Donc, on a d'abord des infos, en amont, il y a toujours des infos qui t'arrivent. Et ensuite, oui, quand on y va, soit le voir, soit des fois c'est un agent, c'est aussi quelqu'un qui te propose, écoute, regarde, lui, viens le voir, s'il te plaît, Omar, viens parce que là, c'est valable. Donc, quand on te dit une, deux fois, il y a des mecs qui sont à peu près... donc, il n'y a pas, dans cette industrie maintenant de football, il n'y a pas quelque chose de très défini. Il y a beaucoup de grands clubs encore qui continuent à marcher dans un aspect assez amateur. C'est par à Séville, bon, tout le monde est Mongi, mais Mongi continue à l'ancienne. Il a quelques amis au Brésil, quelques amis en Argentine, au Mexique. Et le mec, il suit, il sait que comment il pense, comment il travaille. Alors qu'il y a des clubs où ils ont, je ne sais pas combien, les clubs anglais, ils ont, je ne sais pas, 30 quelques recruteurs avec tout dans les logiciels et des données, des je ne sais plus, de combien il a couru, combien il chose, et combien de muscles il a sous les ongles. Donc, bon, ça existe aussi, tout est valable pour pouvoir prendre ou trouver le nouveau Ronaldo et Messi.
Mais là, tu continues à faire ça, à continuer à regarder des joueurs, à essayer de les placer de temps en temps.
Oui, oui, dans beaucoup moins degré d'importance, parce que je commence à vieillir, parce que pour ça, il faut, comme tu disais, beaucoup bouger, beaucoup téléphoner, beaucoup parler, beaucoup regarder. Et j'ai moins le temps, moins envie, moins la possibilité. Mais c'est aussi jouissif, le fait de trouver un main. Moi j'amenais déjà des jeunes, parce qu'en plus, à un moment donné, j'amenais des, par trois, j'amenais dans des équipes à Evian, un jour, j'amenais, j'ai pas cinq, à Tonon Evian, quand ils étaient en deuxième division, j'en amenais en Espagne, j'ai voulu faire en Belgique, j'amenais un mec en Chine, à l'époque, il y a 5-6 ans, et donc, j'essaye, là, j'en ai deux, trois que j'aime bien, parce que, après, on se met, moi, je peux me permettre de, je veux pas faire le coup financièrement, on a tous envie et on veut toujours gagner, je veux dire, on va passer la, je veux pas être hypocrite, mais quelque part, j'ai encore envie de dire que peut-être on va trouver un joueur qui soit spécifique, le mec, un gaucher, toi, qui élimine, qui déborde, qui, je préfère choisir, retrouver, entre guillemets, quelqu'un qui puisse me faire, même à moi personnellement, c'est assez égoïste, me lever du siège. Hein, si c'est pour un mec qui tacle un défenseur, je ne pense pas que je ferais ça.
Oui, mais quand tu ramènes des mecs comme ça en France et qu'on te dit non, c'est pas assez bien pour la France. Je pense par exemple à Javier Pastore que tu ramènes à Saint-Etienne, il fait des essais et on ne le garde pas. Saint-Etienne, c'est pas le Barça ou le Real, Saint-Etienne, ils veulent pas de Pastore.
Oui, mais sauf que maintenant, quand tu dis le nom Pastore, tu sais déjà qu'il a joué à Palerme, qu'il a été acheté par quand, donc on est plus ou moins conditionné aujourd'hui et on parle à
mais on voit quand même qu'il a du ballon.
Encore une fois, là, on vient dans un aspect purement des critères de sélection. Et ça, c'est bon, je sais pas si on va débattre là parce que ce sera encore plus long, mais. Pastore, il a été mesuré, jugé à travers l'aspect physique, qu'il ne l'avait pas du tout. Ils lui ont fait faire le test des Cooper. Il a fait, je sais pas, 2600 ans, alors qu'il fallait faire 3200. Il rigole encore. Il a fait les 80 mètres, mec, il faut faire en moins de, je sais plus, 8 secondes, 9 secondes. Il en a fait 10 secondes. Il a fait le bip, bip, tu sais, le bypass à la bip, bip, et tout, je sais pas, histoire des paliers. Il fallait, je sais pas, faire 17, et lui, il a fait 13. Donc, partout, il a été en dessous, mais ça. Donc, parce que moi, quand je le vois, ça, c'est pareil. C'est un jour, un entraîneur de Cordoba, il m'a dit, qui a joué avec moi, Julio Constantin, un gardien de but qui jouait à Belgrano avec moi, m'a dit, un joueur comme ça, papa, viens le voir. Donc, boum, je suis allé le voir, et je suis allé le voir en équipe réserve contre Boca Junior. Et ce jour-là, et donc ils lui ont dit avant le match, ils ont dit écoutez, il y a des gens, des recruteurs, parce que j'avais été avec un ami, des recruteurs de l'Europe, machin, donc mais jouez tranquille, mais Pastore, dès qu'il a pris ça, il a entendu, il s'est mis côté banc de touche, on était nous, côté tribune, etc., de ce côté, et il nous a fait le festival, répertoire absolu, petit pont, petit chapeau. Et les mecs et les autres, poum, ils voulaient le tuer, et lui, il continuait. L'entraîneur adverse, il voulait lui casser la figure, il disait, casse-le! Tu comprends, il fait une semaine! Lui, ils sont, mauvais, je vois qu'ils ont perdu, je me souviens même plus, mais lui, ils s'en foutaient du résultat.
Juste des petits ponts.
Lui,
petits
mais ponts, voilà. Ponts. Donc, je dis, ce mec-là, je le prends demain matin, il prend l'avion avec moi, j'ai été le voir, sa maman était malade, bon, point, point. Et ça a été le cas. Je dis, ce mec-là, je ne peux pas me louper. Sauf qu'à Saint-Étienne, il a déployé ça. Parce qu'on lui disait, à un moment donné, soi-disant, on l'appelait Monsieur Petit Pont, je ne sais pas quoi, c'est sûr. Il en faisait 50 et des fois dans la surface. Mais au lieu de lui dire, Petit, n'en fais pas ça parce que c'est dangereux. Et sinon, fais-le là-bas, ailleurs, etc. Non, il faut courir, toi. Il faut que cette fameuse phrase de muscle ton jeu. Ça nous a tué.
20 ans de Ligue 1. Non mais là, ok, Pastore, d'accord. Mais il y en a d'autres, t'es comme ça. Tu ramènes Lucho González à Châteauroux. Ils en veulent pas. Mais Châteauroux, Lucho, pourquoi? Je comprends pas, je sais pas.
Et encore une fois, chaque histoire a encore un scénario magnifique. Lui, il était arrivé à Châteauroux, etc. Il venait d'un petit club en Argentine. Et il mangeait toujours dans une pizza d'un ami que je connais, etc. Mimo s'appelle, bon, comme ça on dit, on met tout le monde à la. Et le jour où ils ont annoncé, il est resté 3 jours, etc. Et 3 semaines. Le jour où ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas, qu'ils ne s'en pas importe. Lui, il pleurait. Il a dit, mais non, hein, comment je fais? Parce que, toi, il était persuadé qu'il allait rester, pas parce que c'est à Châteauroux, comme tu dis. Mais lui, il s'en fichait. Lui, la seule chose qu'il avait vue pendant ces 3 semaines, c'était le terrain de foot, sa chambre d'hôtel, le ballon. Et il disait, ici, il faut que je joue. Et quand il est parti, et donc, dans la ville, le lendemain, 2 jours après, c'est le président des Rivers, à l'époque, monsieur Israël, il s'appelle, et,
Et il m'appelle, il me dit, mais Armando Fonseca, vous avez amené Lucho González à Châteauroux, deuxième division, pour à l'époque, je veux pas être vulgaire, ni très rude, pour un sandwich et un coca. Et, mais c'est le même, je dis, oui, mais ça, c'est lui, il est resté. Et en plus, il voulait, mais vous êtes sûr, mon papa? Oui, c'est lui. Et comment, il, lui, il a accepté. Je dis, mais bien sûr, je dis, il avait des larmes, comme des crocodiles. Et donc, poum, il a dit, ok, merci, ciao, à bientôt, poum. Et il a pris à River. Et il a joué à River. C'est pas, tout à coup, ce mec-là, après, 6 mois après, oh, je sais pas, il a fait même pas 1 an à River, et il a été vendu à Porto, je sais pas combien.
Ouais, mais pourquoi ils le prennent pas à Châteauroux? C'est quoi? C'est quoi le truc? Parce que là, alors lui, pour le coup, autant Javier Pastore, je peux comprendre qu'il fasse 15 grammes et voilà. Lucho, il était, non, bon, plus, oui, il était, oui, plus physique.
Bon, là, il y a eu un... À l'intérieur des clubs, il y a toujours, vous savez, le comptable, le directeur sportif. Apparemment, il y a eu un différent. Ça a été la réponse. Il y a eu un différent dans le pur aspect financier, bon, plein des histoires et des choses qui a des retombées extraordinaires. Parce que Pastore, comme vous dites, Pastore, c'est un joueur que nous, au Saint-Etienne, on l'avait pris. Il nous appartenait. On l'a vendu 1 euro symbolique. Le mec, il a été vendu encore. Et c'est ce que je dis. C'est le seul, c'est le seul secteur économique où quelque chose, en 3 ans, je crois. Parce que nous, on l'a vendu. D'abord, chez nous, il était à, bon, 350, nourri, logé. Il était à l'étrade. C'était bon. Ce que je veux dire, c'est que, il a été donc rendu à Huracán. Huracán, il a fait jouer 6 mois, deuxième division, il a fait Poton. Palerme, il a pris, je ne sais plus, à 7 millions d'euros, je sais pas, il a fait 1 an et demi, ou 2 ans, machin, il a été vendu 40 millions. Un mec qui a 2 ans, nous, on l'a vendu 1 euro symbolique. Donc, vous imaginez, ça n'existe nulle part qu'un produit, parce qu'on n'est que des produits, ça, des fois. Et puisse être réévalué ou réajusté, je ne sais pas comment on peut dire, et multiplié par je ne sais plus, il n'y a pas de coefficient.
Mais quand ça se passe comme ça, ça ne t'énerve pas de... En gros, tu vas chercher un joueur qui est un petit peu dans la galère en Argentine ou en Amérique du Sud, tu le ramènes en Europe, donc tu fais le relais, la passerelle, et après, tu disparais du truc. Par exemple, je sais que Bernardi, tu avais signé un papier au moment où il vient à Marseille, où c'est toi l'agent officiel, etc., et 6 mois après, il signe à Monaco, t'es pas dans l'histoire.
Absolument. Tu vois, tu connais tout plein
de
choses.
Ah oui, attends.
Et oui, oui, quand on est dedans, on est fou. C'est pour ça que c'est un milieu vachement ingrat. Maintenant, je rigole, je suis complètement dépassé. Je n'ai pas, j'en parle avec les joueurs, etc. Parce que je suis de la devise de pardonner vite, aimer vraiment, embrasser lentement et rire sans cesse. Mais bien sûr, pour plein de choses, je ne vais pas vous la raconter, mais c'est un métier où tu gagnes pas mal de thunes, où tu es souvent déçu parce que la mémoire, la reconnaissance, c'est des valeurs assez difficiles. Mais en même temps, le système, l'organisation pour faire les contrats, pour venir, ce n'est pas tout à fait clair. Les agents, les contrats qu'on signe, rien n'est assez plutôt gris partout. Donc, sans dire que c'est noir, mais... donc oui, oui, j'ai été plus souvent en colère et en rage et révolté.
À côté de ça, il y a quand même des moments malhonnêtes, on va dire. Parce que je sais, oui, par exemple, que ton agent de l'époque, Rafael Santos, quand il te ramène à Tours,
il m'a tué.
Il te ramène à Tours et il te dit on t'a vendu pour tant, et tu découvres après qu'en fait il t'a vendu 3 fois plus cher.
Oui. Oui, et en plus, en sachant tout ça, etc., après quand je suis parti à Paris, je l'ai rappelé. Et il m'a encore arnaqué. Et quand je suis allé à Monaco, il m'a fait. Mais il a quand, ouais, mais bon. Et. Est-ce qu'on s'est dit que c'est la règle du jeu? Peut-être, on abdique facilement. Parce que je le dis, c'est parce que maintenant j'ai 60 balais, donc forcément l'âge fait qu'on relativise. Mais quand on est aussi jeune et on a le foot, on a beaucoup trop de questions par rapport à des bonnes réponses. Donc, on n'est pas appuyé, on t'a trahi, on te la raconte comme tu veux les entendre, parce que t'es dans ce, toi, tu veux jouer, moi je voulais à Paris, machin. À la limite, le mec il me disait 10, mais peut-être qu'il avait 20, mais il me disait 10, moi j'avais tellement envie de signer pour 10, que, tu comprends? Il y a tellement d'éléments, je sais pas maintenant si les jeunes, j'aimerais bien pouvoir délucider ça. Est-ce que maintenant, je parlais un peu l'autre jour avec Dembélé, le jour des Oscars, je sais pas, est-ce que ces joueurs-là, on leur donne la possibilité de qu'ils réfléchissent à travers ça? Je crois qu'il y a un peu plus la famille plus proche. Bon, des fois, il y a aussi des actes malhonnêtes, et ça existe, c'est vrai, mais comment pouvoir enlever ce facteur-là de la nature humaine?
Juste pour finir sur les anecdotes joueurs, après on passe au côté consultant, Camoranesi, t'avais essayé de le ramener aussi?
Oui, à Bordeaux à l'époque. Et lui, il venait d'une équipe de deuxième, Van Fiel à l'époque, en deuxième division. Donc je l'ai fait venir et il a fait des essais, bon je sais pas, et bon mais c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle des joueurs que maintenant on sait qu'ils ont fait une superbe carrière, mais à l'époque le mec il avait aussi 20 ans et il n'avait rien fait. C'est toujours pareil, miser sur quelque chose que l'inconnu fait peur, et souvent on s'attache à ce qu'on voit. Mais c'est là où, encore une fois, même avec le temps passé, et je trouve qu'en France, on a beaucoup moins d'ouverture à vouloir développer la détection de pouvoir associer le joueur qui est bon techniquement et avec une progression physique ensuite. Je crois qu'on n'a pas encore en France dépassé ce cadre-là. Parce que pour revenir encore à l'histoire des Pastores, j'ai le dossier, non, le quand les leçons de formation, vous savez, pas le constat, bon non le directeur du centre de formation, il avait fait un rapport, bien joué, un rapport. Donc j'ai le rapport que monsieur, il a mis sur Pastore, et c'est vrai que ce qu'il dit à l'époque, c'est vrai, il dit manque de puissance, conditions physiques en dessous de toutes les valeurs. Ce qu'il dit est vrai, parce que
oui, mais en Espagne on s'en fout de ça, par exemple.
Oui, d'accord, mais c'est là où je le dis tout le temps. Et un jour on avait fait un jubilé, et je me souviens plus de qui, et on était à table, et il y a un grand monsieur de notre football, entraîneur Arsenal, etc., qui ont parlé de comment, tu sais, le défenseur hollandais, etc. Donc et Arsène, il disait oui, mais il est pas assez agressif, comme machin, il est pas mal. Et après à Michel Platini, il disait oui, mais quelle relance, etc. En parlant du même joueur, les deux arguments c'était vrai, chacun relevait la bonne caractéristique. Mais après, c'est ce que je dis, c'est disons la vision de quoi tu veux t'approprier. Et aujourd'hui, beaucoup dans les centres de formation, on continue à vouloir s'approprier de cet aspect physique qui est déjà présent au moment instantané du choix.
Mais ça, t'as pas envie de le changer, toi? Parce que je sais que, par exemple, à un moment, t'étais... Oui, mais
j'aurais bien aimé beaucoup.
Non, mais de l'intérieur.
J'ai pas pu. Si, mais
tu pourrais. Puisque t'as commencé à passer tes diplômes quand t'étais au Paris FC, t'as entraîné un petit peu les jeunes, par exemple à Vincennes, t'as commencé à passer tes diplômes d'entraîneur et t'as arrêté. Pourquoi?
Parce que j'ai passé le premier, le truc, le premier.
B1.
Parce que ça, parce qu'on faisait des choses un peu complètement contradictoires.
Oui, mais justement, toi, tu te dis pas en étant entraîneur, j'imprime ma marque.
Oui, mais bon, à l'époque, j'étais assez limité dans le côté révolutionnaire. Je pense que je n'avais pas la possibilité. Le Che Guevara, il m'avait laissé tout seul et j'ai pas pu. Non, mais oui, je veux dire, je pense que j'ai eu l'option de facilité de me dire que. Parce qu'à Saint-Étienne, quand j'étais à Saint-Étienne, je vais vous raconter un truc. Nous, à Saint-Étienne, on a acheté un club, et le club Talleres de Córdoba. On a été actionnaire majoritaire. On l'avait payé à l'époque, je m'en fiche, je crois que c'était 400 000 euros. On avait payé tout le monde. Mais comment? Je dis, laisse tomber, on va là-bas. Vous imaginez, c'est le troisième équipe qui a le plus de spectateurs. Il y a le plus, après Boca River, c'est Talleres de Córdoba qui fait le plus de recettes, etc. Maintenant, ils sont en première division, mais à l'époque, ils étaient en deuxième division. Mais c'est à Córdoba, où tous les enfants, ils mangent de la viande, sont plutôt bien nourris, etc. Et il y en a eu un paquet de joueurs, parce que c'est à côté de Rosario, des joueurs qui sont sortis, les Kempes, les Luque, les Valencia, un paquet de joueurs sortis de Rosario et Córdoba, c'est les joueurs où on produit le plus de joueurs de football à l'exportation même. Et quand j'avais dit, je dis, écoutez, vous imaginez, on a cette possibilité. On avait mis un cabinet de Lloyd pour superviser. Nous, on faisait pas les chaises. Tout était hyper réglo parce que moi, j'avais pas envie de faire des normes. Moi, je voulais. Et l'idée, c'était, voilà, je dis, écoute, si on n'arrive pas en Argentine, où on avait signé, on avait 1000 licenciés, 1000 joueurs de football, on avait toutes les catégories. Je dis, écoutez, si en 4-5 ans, on sort pas 3 Sablés, 5 Elwick et 18 Loïc Perrin, et je me pose des questions. Je dis, comment, la main, vous comprenez, je le dis à tout le monde, je suis ouvert à continuer. Parce que moi, c'est pas une attaque à dire ça. Quel est le problème de il y en a des gens qui se sont blessés pour, quand on dit des choses. Moi, Matuidi, je le fais venir. Matuidi, je le fais venir quand je le connaissais déjà. Il était à Vincennes. Il a été à Troyes. J'ai participé parce que c'est Jean-Marc Fellon qui était comme mon entraîneur. Et quand Matuidi est venu à Saint-Étienne, nous, on avait une équipe trop de il s'est coiffé, le short, il ne socialisait pas trop, et on était un peu dans la, tout au début, on venait de deuxième division, la première année, donc il fallait, comme on dit, muscler un peu plus, parce que c'était non. Et donc j'avais dit, Matuidi, vous allez voir, ça va être le meilleur joueur de notre équipe lorsque les adversaires ont la balle. J'avais donné ça à Romeo. Moi, je me dis, qu'est-ce que tu racontes, toi? Le mec, il me dit, parce que lui, là, je le connaissais très bien, il est l'harcèle, il met, c'est ce qui fait qu'on, même maintenant, même on ne peut pas dire aujourd'hui de Matuidi sans l'offenser, parce que je lui ai déjà dit à lui qu'aujourd'hui, Matuidi, il peut être comparé à Rakitic, à Iniesta, à Modric, et ce n'est pas une honte de dire qu'il a d'autres caractéristiques, et qui peuvent être utiles, et qui peuvent être, bien sûr, appréciés par deux autres entraîneurs. Et ça fait partie des choses réelles. Après, qu'on ait le débat, c'est l'ouverture. Donc, cette histoire de l'Argentine, c'est pour vous dire qu'à tout moment, nous, on était avec l'Afrique. Ils disaient, non, ça y est, on a créé un centre de formation au Sénégal. On faisait venir, ils venaient de chez... Bon. Beaucoup de
c'est la mode, ça, à l'époque. Monaco avait fait ça, Dakar aussi.
Ce qui, à moi, ça nommait, je dis, ok. Sauf que quand ils venaient, bien sûr, dans les tests de Cooper, ils se faisaient 3700. Dans le machin, c'est évident. Les 18, 20 ans qu'on faisait venir par rapport à Pastore, à Piatti, à Guarin, à tout ça, les Argentins, les mecs de l'Amérique du Sud, ils étaient derrière, et les autres devant. Parce que l'aspect athlétique est meilleur. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est là où j'ai voulu, à Saint-Étienne, j'ai passé des heures, j'ai fait que ça pendant 2 ans, j'ai eu pas d'amis, je me suis mis à fond, je regardais tous les matchs, j'allais partout, tous les lundis j'allais aux Pays-Bas pour aller voir, tous les lundis faisais les équipes réserves de la JARC, des Pays Saint-Domingue, j'y allais tout le temps pour voir les ailiers, comment ils font, je dis, comment ils sortent des mecs et qui dribblaient comme des malades, je dis, comment, bon, et j'étais à fond. Et j'ai essayé à Saint-Étienne, sauf que, voilà, le centre de formation, les entraîneurs, il y avait, je la raconte tout le temps, le lundi, on me sortait on m'envoyait le rapport de, on avait, je sais pas, Omisport, je sais pas, qui te donnait les statistiques. Méchant, boum, boum, toi. Donc, il disait, Landrin, et il a couru 14 kilomètres. Je dis, punaise, mais comment il a couru à la mi-temps? Non, il est pas rentré, il courait au machin. Sauf qu'il a couru 14 kilomètres, mais il a donné 18. Donc, un jour, Vincent Ognon, on avait perdu 1-0 contre, je sais pas, qui est Vincent. Moi, je l'ai rencontré, super mec. Il m'avait dit, l'entraîneur m'a dit, il a gagné 9 duels sur 10. Je dis, oui, merde, mais c'est lui qui a perdu. L'autre, il nous a mis la tête, on a perdu le match. Donc, et des fois, toi, on était dans une situation où moi, je m'en fichais. La réserve avait joué. On avait joué, je sais pas, contre Blamant de Toulouse, je sais plus, une banlieue, un match catastrophique. On menait 1-0, on a joué tous derrière. Et à l'étra, il n'y avait pas de... Et donc, l'entraîneur de la réserve préconisait, poum, frappe dehors, pour que la balle, elle partait loin. Le temps qu'on allait la chercher, vous voyez, on gagnait. Et le mec, le lendemain, ça y est, j'ai gagné 1-0. Je dis, mais... T'as gagné, comme, mais, on doit sortir des joueurs, on doit faire que le mec, il touche au milieu, que tu tapes là-bas, pendant 5 minutes, on attend que la balle, il revienne, essaye de voir comment le mec, il a contrôle, il fait des 1-2. Donc, ok, encore une fois, c'est une, j'ai aucune prétention, et encore une fois, j'ai pas de stratégie à vouloir et montrer quoi que ça, je suis pas un donneur de leçons. Des fois, il m'a dit, ouais, mais non, simplement, j'ai une vision, j'ai une envie, c'est ce qui m'est fait moi. Bon, mais moi, je peux comprendre que l'Atlético Madrid gagne autrement. Je peux le comprendre. J'aime pas, et je le dis. Pour moi, Simeone, en Argentine, Simeone est catalogué comme un entraîneur hyper défensif. Vous pouvez le dire, depuis, il a toujours été comme ça. Mais il gagne.
Bon, en tout cas, t'as bien fait de lâcher un petit peu, on va dire, les études d'entraîneur, etc. Puisque maintenant, tu es le consultant vedette de France et donc de Beansport. Tu peux rigoler, c'est vrai. Franchement, tu le disais tout à l'heure, tu es arrivé dans ce milieu-là grâce à Charles Bietri au début des années 90. Est-ce que tu as dit oui directement ou tu as eu peur au début? Et voilà, mi-temps, c'est fini pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous le 5 janvier pour la seconde partie qui portera sur sa vie de consultant et quelques petites surprises. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent Noël et un tout aussi bon réveillon du jour de l'an. Si vous vous retrouvez le 31 au soir avec Tata Huguette devant Arthur et autres bêtisiers vus et revus 8000 fois, bah prenez vos écouteurs pour vous refaire l'intégrale de Banquette. Moi, je vous le dis, ça vous sauve une soirée. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que cette émission est produite par Julien Neuville, montée et mixée par Zaki Halal, la réalisation sonore est signée Aurore Meyer-Bayeux, et la musique originale nous provient des caves toulousaines et des génies fous Méhari. Strictement aucun lien avec la voiture. Hein. Allez, je vous laisse, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches et des bonnes choses. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle année 2017 en pleine forme, un peu comme l'AS Monaco. Des bisous!